La reprise du cours après la séance de la semaine dernière qui était un peu particulière avec les intervenants du TNP. Avant d'engager le cœur du propos de la séance d'aujourd'hui, je voudrais préciser deux citations auxquelles j'avais fait référence il y a deux semaines. La première, c'était une citation, si vous vous rappelez, de Claude Lévi-Strauss dans « Triste tropique ». C'est une citation que j'avais faite de mémoire. Je suis retombé sur la vraie citation. Vous allez voir que ma mémoire était assez fidèle, mais malgré tout, je pense qu'il vaut mieux en revenir à ce que réellement Claude Lévi-Strauss a écrit. Donc il a écrit « Le village entier est parti le lendemain dans une trentaine de pirogues, nous laissant seuls avec les femmes et les enfants dans les maisons abandonnées. » Bon, ce qui était à peu près ce que j'avais dit, plus ou moins de mémoire, et voilà, l'humanité se résume au masculin, adulte. L'autre citation, c'est par rapport à ce que j'avais dit sur les barouillas, donc et leur conception du sperme comme seul principe actif dans la fécondation, dans la reproduction. Et donc je vais vous citer un extrait de l'Encyclopédia Universalis de 1984, l'article fécondation, donc c'est un biologiste qui écrit, peu importe son nom. La particularité des gamètes femelles est un régime métabolique particulier. Une fois différenciées, ces cellules vont témoigner d'une extraordinaire inaptitude à poursuivre leur développement. Elles entrent dans un état d'inertie physiologique, telles qu'elles sont vouées à mourir si elles ne sont pas activées. C'est alors que se révèle la nécessité de la fécondation. Le gamète mâle assurera la fonction activatrice naturelle. Cette vertu séminale a été reconnue depuis la plus haute antiquité, je n'invente pas, et pourtant la puissance vitalisante de la semence mâle reste encore mal expliquée alors qu'elle joue un rôle clé dans la reproduction sexuée. C'est-à-dire que cet imaginaire du féminin entièrement passif et du masculin seul actif, on la retrouve chez des éminents spécialistes, biologistes de nos sociétés très, évidemment, très évoluées, entre guillemets. Hein. Et bon, d'autres biologistes ont montré qu'avec des lunettes un petit peu moins sexistes, on pouvait rendre compte du phénomène de la fécondation sur un mode qui soit moins clivé, hein, et que les gamètes femelles ne sont pas aussi passives que le laisse entendre cet individu dans sa présentation. Alors, avec la séance d'aujourd'hui, j'en viens maintenant au cœur de la séance d'aujourd'hui, et puis celle de la semaine prochaine, on va rentrer dans un domaine un peu plus spécifique des rapports entre sexe et politique, qui est celui des politiques de la sexualité. Hein, vous vous rappelez, la première séance, j'avais cité Elsa Dorlin, qui dit que le terme de sexe peut désigner plusieurs choses, des organes sexuels, hein, le sexe biologique, premier sens. Deuxième sens, bah, ce sont les rôles et les comportements que la société suppose spécifiques à ses organes, hein, aux individus porteurs de ces organes. Hein, donc c'est l'idée de sexe social au sens de genre, lorsque le concept de genre est pris dans son acception la plus descriptive, hein, sexe social. Et puis, bah, troisième sens, le sexe entendu comme un domaine de pratique, c'est-à-dire la sexualité, l'usage que l'on fait de ses organes sexuels et d'autres organes dans une visée de plaisir érotique. Donc les précédentes séances, elles étaient surtout attachées aux deux premiers sens du mot sexe, et maintenant il s'agit d'aborder le troisième sens, donc le domaine de la sexualité, en l'envisageant comme un enjeu de politique. Donc il va s'agir dans cette séance et dans celle qui viendra de la semaine prochaine, d'aborder la sexualité comme prise dans un ensemble de règles, de normes, de rapports de pouvoir, qui sont en premier lieu des rapports de pouvoir liés à la sphère étatique, c'est-à-dire qu'est-ce que disent les lois sur la sexualité. Donc, d'un côté, voilà, cet aspect réglementation politique de la sexualité, mais également la sexualité en tant qu'elle peut être l'objet, l'enjeu de mobilisation de mouvements sociaux qui vont contester ce que disent les lois, par exemple, hein, qui vont s'opposer à l'État et revendiquer éventuellement de nouvelles lois, ou bien la sortie de la sexualité du domaine de la loi, ou de certains aspects de la sexualité du domaine de la loi. Alors, c'est une première chose à remarquer, sur laquelle je serai à revenir dans la séance d'aujourd'hui. La loi ne s'intéresse pas nécessairement à l'ensemble de la vie humaine, et le politique peut très bien se désintéresser d'un certain nombre d'activités, et les considérer comme ne relevant pas de son domaine d'intervention. Et c'est notamment le cas de tout ce qu'on désignera comme relevant de la sphère privée. Vous vous rappelez qu'il y a deux semaines, j'avais évoqué Habermas et l'idée de la sphère publique, de l'espace public, c'est-à-dire les modalités de la délibération démocratique, mais également des thèmes, des enjeux qui sont redevables d'une discussion dans l'espace public, qui valent qu'on délibère démocratiquement sur eux, qu'on prenne, qu'on adopte des lois là-dessus. Et puis, il y a ce qui ne relève pas de la sphère publique, c'est-à-dire ce qui relève de la sphère privée. Alors, je l'avais dit, c'est une conception de la démocratie qui remonte à la Révolution française. Et donc, ça suppose, cette conception de la chose publique, de la vie publique, de la vie politique, ça suppose donc une coupure entre deux domaines distincts, ce qui est public, ce qui est privé. Et fait référence à la Révolution parce que c'est un moment important, parce que l'Ancien Régime n'établit pas de la même manière une coupure entre le public et le privé. Et par exemple, on l'avait évoqué peut-être, en tout cas c'est évoqué dans la pièce de Mishima, Madame de Sade, qui a été présentée la semaine dernière, des affaires privées, des affaires de famille peuvent tout à fait être redevables d'une intervention politique. C'est-à-dire, si vous êtes mécontent de votre fils, vous pouvez écrire au roi en lui expliquant vos griefs, et puis il peut prendre une lettre de cachet, c'est-à-dire un ordre d'enfermement. Et voilà, si, vous avez votre fils qui dilapide la fortune familiale, qui a un comportement scandaleux qui fait que votre nom est discrédité, vous pouvez régler le problème par ce biais-là. Et donc, une affaire privée, et Madame de Sade, la belle-mère du marquis, ne s'est pas privée de recourir à cette procédure pour faire enfermer son gendre qui faisait du scandale. Donc, avec la Révolution, avec l'esprit démocratique, on instaure une frontière entre public et privé. Évidemment, cette frontière, elle est relative, d'une part, et elle est ambivalente, d'autre part. Alors, elle est relative, première chose, parce que la même chose, le même thème, le même problème peut, selon les pays, selon les périodes, tomber d'un côté ou de l'autre de la frontière. Par exemple, dans certains États des États-Unis, la sodomie est interdite. Alors que dans d'autres États américains ou chez nous, à partir du moment où c'est entre individus consentants, c'est leur affaire privée. Et l'État n'a pas à mettre son nez sous les draps des gens. Alors, c'est aussi quelque chose d'ambivalent, parce que ça peut être protecteur devant la menace que représente toute intrusion de l'État. Le fait que sa vie privée, son domicile privé, dispose de garanties de protection devant une intrusion d'un État qui peut avoir des velléités de contrôle, de répression. C'est quelque chose auquel les Américains sont très attachés. Donc, protection de la sphère privée devant une intrusion éventuellement coercitive de l'État, mais ça a aussi une conséquence moins positive qui est d'exclure du débat public, de la délibération et de la prise en charge éventuellement par la dimension protectrice de l'État de tout un ensemble de choses telles que les rapports de domination qui peuvent avoir lieu à l'intérieur du foyer domestique, à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de la sphère privée. Et ça a été un coup de force du féminisme et un coup de force salutaire que de proclamer que le privé est politique. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les foyers, ce qui se passe à l'intérieur des couples, est aussi redevable d'une analyse politique en termes de rapport de pouvoir et éventuellement redevable d'une prise en charge politique. Le viol conjugal, les violences conjugales, ce ne sont pas des choses qui se gèrent à l'intérieur du couple, ce sont des choses qui engagent des rapports de pouvoir, des rapports de domination, et qui sont redevables d'un débat et d'un traitement politique. Donc, voilà, ambivalence, parce que dire que quelque chose est privé et que l'État n'a pas à y mettre son nez, ça peut être protecteur, effectivement, pour la liberté individuelle, mais ça peut aussi conduire à ignorer, et donc se faisant à maintenir, voire à légitimer, des rapports de domination éventuellement violents. Donc ça, c'est des choses importantes sur laquelle je serai amené à revenir dans le cours de la séance. Alors, je l'avais aussi signalé lors de la première séance, je ne vais pas dresser un panorama global des rapports entre sexualité et politique, je vais m'arrêter dans les deux séances qui viennent sur deux enjeux particuliers mais importants de ces rapports, donc l'homosexualité cette semaine et puis la prostitution la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, il s'agit de traiter de l'homosexualité, pas de manière générale, mais en tant qu'elle est une préoccupation politique, qu'elle est questionnée ou encadrée ou ignorée par la loi. Et j'adopterai un plan en trois parties, qui sera d'ordre essentiellement chronologique. Dans une première partie, je ferai un bref historique de la manière dont l'homosexualité a été considérée et traitée politiquement. Ensuite, j'évoquerai la question des luttes homosexuelles dans la seconde moitié du XXe siècle. Et puis, j'évoquerai dans un troisième temps les enjeux des débats actuels sur la reconnaissance, mais aussi la normalisation de l'homosexualité. Alors, premier point, un retour historique. J'avais commencé il y a trois semaines en citant Alexandre Vialat, si vous vous rappelez, et puis en disant que la femme remonte à la plus haute antiquité. Eh bien, contre toute attente, peut-être, je vais prendre le contre-pied de cette datation pour ce qui concerne l'homosexualité, qui n'existe, et je suis sérieux, que depuis la seconde moitié du XIXe siècle, et depuis 1869 très précisément, c'était déjà une année érotique. Mais en tout cas, l'homosexualité n'existe en Occident que depuis 1869. Pardon. Alors, bien sûr, vous allez tous et toutes réagir, sans doute, en me disant que, bien avant cette date, il y a eu des homosexuels. Et vous allez, par exemple, me citer l'Antiquité grecque et le banquet de Platon, où, quand même, c'est des histoires entre hommes. Vous allez évoquer, côté lesbien, Sappho, poétesse de l'Antiquité grecque. Plus près de nous, on invoquera Henri III et ses mignons, Michel-Ange, etc. Et puis, on pourra aussi évoquer les barouillas, et la manière dont les garçons sont nourris du sperme des hommes, et ça a à voir avec l'homosexualité. Alors, bien sûr, vous aurez raison de m'opposer tous ces exemples, sauf que ce qui est en jeu, ce sont des pratiques sexuelles particulières, entre personnes de même sexe, ok, mais ce ne sont pas des identités. L'homosexualité, elle n'existe que depuis la seconde moitié du XIXe siècle, en Occident, en tant que catégorie médicale, qui assigne une identité psychologique spécifique aux individus qui se livrent à ce type de pratique sexuelle. Alors, pour illustrer ça, je vais prendre un exemple qui, je pense, est éclairant et puis qui fait une filiation, un lien avec la présentation de la semaine dernière. Je vais me référer à un texte du Marquis de Sade, écrit en 1795, qui s'appelle « La philosophie dans le boudoir », vous avez peut-être lu. Et dans ce livre, il y a un personnage qui s'appelle Dolmancé, qui est un peu particulier, parce que c'est un bougre. Alors, un bougre, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui date du Moyen-Âge. Alors, une étymologie que j'ai pas pu vérifier me dit que ça vient de bulgare, mais je veux vexer personne. Un bougre, c'est un sodomite, en fait. Et ce personnage de Dolmancé, dans La philosophie dans le boudoir, il est particulier parce que, effectivement, il ne se livre qu'à une seule pratique, qui est la sodomie, de préférence avec des hommes, en occupant des positions tant passives qu'actives. Alors, si on lui demande gentiment, il veut bien se livrer à cette pratique sur des femmes, mais certainement pas de relations par pénétration vaginale, par exemple. Hein. Donc, c'est une prédilection qui le singularise, hein, donc qu'il fait qu'il est un peu particulier. Et on dirait aujourd'hui qu'un tel personnage est un homosexuel. Pourtant, ça n'a, d'une certaine manière, rien à voir, parce que ce qui le singularise, ce sont ses pratiques, ce sont ses goûts sexuels, mais ce n'est pas une identité qu'il porterait de manière permanente, qui le définirait quasi ontologiquement. Et notamment, dans la manière dont Sade le décrit, c'est un homme qui n'est absolument pas décrit comme efféminé, par exemple, ce qui va, à partir du XIXe siècle, être désigné, mis en avant, comme une caractéristique de l'homosexuel. Et préférer des partenaires sexuels de son sexe, dans ce contexte de la fin du XVIIIe siècle, où écrit Sade, ça n'implique pas de se convertir à l'identité du sexe opposé. Ça ne suppose pas d'être efféminé. Ou pour une femme qui préfère les relations avec d'autres femmes, d'être plus masculine. Et donc, ce qui date de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est l'idée que préférer des partenaires de son sexe, c'est fondateur d'une identité psychologique particulière, que cela vous classe dans une catégorie bien spécifique. Et c'est en ce sens d'identité, de catégorie, que l'homosexualité existe de manière, en fin de compte, récente. Donc les individus, auparavant, ont des goûts et des prédilections pour telle ou telle pratique, tel ou tel type de partenaire. Cela les rend plus ou moins singuliers, plus ou moins infréquentables, effectivement, mais ça n'induit pas de conséquences majeures sur leur identité fondamentale. Et donc, j'ai dit, ça date de 1869, parce que c'est l'année où le terme d'homosexualité, il est utilisé pour la première fois. Alors, j'ai trouvé plusieurs références qui concordent pas nécessairement. L'une d'elles dit que c'est un obscur écrivain austro-hongrois, Kert Beny, K-E-R-T-B-E-N-Y, qui l'utilise, alors, dans un sens plutôt militant, pour revendiquer la décriminalisation des pratiques sexuelles entre hommes dans certains États allemands. Mais surtout, le terme va connaître une forme de consécration sous la plume du médecin allemand Kraft Ebing, K-R-A-2-F-T-E-B-I-N-G, qui va réserver à l'homosexualité, à cette nouvelle catégorie, une place de choix dans une gigantesque encyclopédie des perversions sexuelles, Psychopathia sexualis, qu'il va publier en 1887. Donc on remarque que le mot, il est d'abord dans un sens un peu militant, mais il tombe rapidement dans le vocabulaire médical et plus exactement dans le vocabulaire psychologique psychiatrique. Et c'est dans ce domaine-là, dans ce domaine médical, que le terme va prospérer. Et donc l'homosexualité, c'est en priorité une catégorie médicale qui va définir ce qui est considéré comme une perversion, cadre de la fin du XIXe siècle, une déviation de ce qui est la sexualité normale, à savoir l'hétérosexualité à visée reproductive. Et le XIXe siècle, il a été extrêmement fertile en classification, en catégorisation de différents types de perversions et de déviances sexuelles. Je renvoie sur ce point au premier tome de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, qui s'appelle « La volonté de savoir », où il décrit bien comment, au XIXe siècle, la sexualité rentre dans le domaine du savoir médical et devient un enjeu de vérité. D'ailleurs, c'est la vérité sur les individus, la vérité de l'individu qui se livre à travers ses pratiques sexuelles. Donc on voit que ce n'est pas simplement des pratiques plus ou moins honorables ou honteuses, mais c'est la vérité de l'individu, c'est son être même qui se définit à travers ses pratiques sexuelles. Et auparavant, une nouvelle fois, ce qui veut dire aussi que l'hétérosexualité date de la même période. Ça date de la fin du XIXe siècle aussi, puisque c'est une identité qui n'existe que par rapport à son opposé, à son contraire, qui est l'homosexualité. Et donc auparavant, il y avait avant tout des pratiques particulières, plus ou moins acceptées ou condamnées, selon les contextes et les périodes, mais ça n'engage pas l'identité des individus. Alors, ça ne veut pas dire, première chose importante, que pour être appréhendés sous l'angle de leur pratique, ces individus, pas encore homosexuels, pas encore classés comme tels, ont été largement acceptés par leur société, loin de là. Alors, je vais faire un bref survol historique, mais ce que ce survol permettra de remarquer, c'est que les attitudes à l'égard de ces pratiques ont été variables, mais qu'elles ont été le plus souvent défavorables. Alors, dans l'Antiquité, grecque et romaine, on le sait, quelque chose de largement connu, les relations entre hommes, et dans une moindre mesure entre femmes, sont tolérées, voire exaltées, dans les couches supérieures de la société. Le banquet de Platon, c'est une des expressions les plus connues de ça, et on sait que beaucoup de personnages importants de l'Antiquité, Alexandre le Grand jusqu'à Jules César, comme on dit aujourd'hui, étaient à voile et à vapeur. J'ai évoqué aussi Sappho comme figure des relations entre femmes. Ce qui ne veut pas dire le fait que ça soit accepté, ça ne veut pas dire qu'on était dans une situation de très large tolérance où chacun faisait ce qu'il voulait, bien au contraire. Et je vais citer une nouvelle fois Foucault, cette fois dans le deuxième tome de l'histoire de la sexualité, qui s'appelle « L'usage des plaisirs ». où il s'intéresse à l'Antiquité grecque, et il montre très clairement, à partir de textes de philosophes grecs, qu'on est dans un univers très fortement normé. Alors, on est dans un univers particulier qui est celui des aphrodisias. Bon, vous voyez tout de suite l'étymologie. C'est le domaine de la sexualité, de ce qu'on fait avec son sexe. Et c'est un domaine très strict où, effectivement, quand on est un homme, on peut coucher avec d'autres hommes. Ça, c'est absolument pas un problème. Mais attention, pas n'importe quand ni à n'importe quel rythme. Il y a des moments dans la journée qui sont propices. Il y a des saisons qui sont propices et d'autres qui sont défavorables. Il ne faut pas jouer avec ça. Il y a une espèce de diététique très stricte des aphrodisiens. Et puis, si on en fait trop, et c'est à la fois médical, mais c'est aussi moral. Les deux sont étroitement liés. C'est-à-dire que si on fait ça trop souvent, c'est très embêtant, parce que ça veut dire qu'on ne contrôle pas son corps, qu'on ne contrôle pas ses passions. Et quelqu'un qui est esclave de son corps, de ses passions, est-ce que c'est un bon citoyen? On peut en douter. Donc, dans la morale politique grecque, quelqu'un qui est un peu trop porté sur la chose, c'est pas quelqu'un qui, en qui on peut avoir confiance. On le fait pas non plus avec n'importe qui, ni n'importe comment. Parce que le rapport sexuel, et on retrouve des choses que j'avais signalées dans la première séance avec, vous rappelez le graphique de Bourdieu, hein, les couples d'opposition, le rapport sexuel, il est pensé sur le modèle pénétrant-dominant et pénétré-dominé. Donc c'est une politique. Ce sont des rapports de domination qui s'expriment dans le rapport sexuel. Et donc, il est inconcevable qu'un citoyen occupe une position passive dans le rapport avec, par exemple, un esclave, un inférieur. Il peut coucher avec un esclave, mais pas dans une position passive ou dominée. Également avec quelqu'un de plus jeune. Hein, ça serait le monde à l'envers s'il occupait une position passive. Alors, le rapport sexuel avec un plus jeune, il est pensé... Bon, c'est connu sur un mode pédagogique, ça fait partie de l'apprentissage du rôle de futur citoyen, hein, que de coucher avec des hommes plus âgés, mais là aussi en restant à sa place, hein, en restant du côté du passif, et sans y prendre trop de plaisir ni d'habitude, parce que sinon c'est le signe défavorable qu'on sera incapable d'assumer ses responsabilités de citoyen adulte un peu plus tard. Hein. Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose de très normé qui est d'emblée une politique. Une morale, et aussi une diététique. Hein. Tout ça est lié dans la pensée grecque. Et donc l'ordre politique se reproduit dans différents domaines, dont celui du sexuel. Hein. Et là, vous voyez que le public, politique et le privé ne sont pas séparés. Et vous voyez également que ce qui est en jeu, une nouvelle fois, ce sont les pratiques et pas l'identité qui découle des choix sexuels. Ce qui est important, c'est que le citoyen soit actif, que ce soit avec des garçons, avec des esclaves ou avec sa femme. C'est pas que les partenaires sexuels aient tel ou tel sexe, au sens biologique. Alors, bon, le troisième volume de l'histoire de la sexualité de Foucault, le souci de soi, il était consacré à... Hein, il a pour titre le souci de soi, il est consacré à l'Antiquité romaine, où on voit se développer une philosophie de la sexualité qui, là aussi, est peut-être davantage encore soumise à des règles diététiques strictes, mais aussi une pensée qui se referme davantage sur le couple, sur la sphère du couple et sur les rapports affectifs entre époux. Et puis alors, bon, c'est un peu pour l'anecdote, mais il y avait un quatrième volume de l'histoire de la sexualité de Foucault, que Foucault a fini, et qu'il n'a pas eu le temps de relire, il est mort avant de l'envoyer à l'éditeur. C'est un volume qui était consacré au christianisme primitif, hein, des premières années. Mais Foucault, donc, il est mort avant de donner l'accord à l'éditeur, et il avait, dans son testament, interdit toute publication posthume, ce qui fait que le manuscrit existe, mais il n'est pas publiable, pour des raisons morales, on respecte sa volonté. Donc c'est une catastrophe économique pour Gallimard, parce que... Il se ferait vachement d'argent s'il vendait le livre. Il y a des chapitres qui avaient été publiés avant sa mort, avant la totalité, où on voit, où Foucault décrit comment, avec le christianisme, le sexe, précisément, devient l'enjeu d'un rapport particulier à la vérité de soi. D'où l'importance de la notion d'aveu, hein, le titre du livre devait être les aveux de la chair. Dans le christianisme, et vous voyez tout de suite le lien qu'il y a avec la pensée médicale du XIXe siècle, hein, malgré tous les siècles qui les séparent, avouer, confesser ce qu'on fait, c'est dire le fond de son âme, c'est révéler la vérité de son être. Vous retrouvez tout de suite, la vérité de l'individu se trouve dans ses pratiques sexuelles. Alors évidemment, ça m'amène à évoquer brièvement le rapport du christianisme aux pratiques sexuelles entre personnes de même sexe, hein, c'est-à-dire en priorité les hommes, puisque les pratiques entre femmes sont le plus souvent ignorées. Hein, là aussi, on retrouve la pensée sexiste, elles sont considérées comme sans intérêt ni pertinence, ce qui fait que peut-être l'avantage que les femmes en ont retiré, c'est qu'elles ont été un peu moins ostracisées que les hommes. Ce qui est intéressant, par exemple, dans la Bible, c'est des choses comme le mythe de Sodome et Gomorre, hein, qui vient tout de suite à l'esprit lorsqu'on évoque la référence biblique à l'homosexualité. Voilà, la Bible condamne l'homosexualité, regardez ce que Dieu a fait de Sodome. Il y a d'autres passages de la Bible qui sont un peu plus ouverts, on a des relations assez ambiguës entre des personnages. Mais surtout, et je pense que c'est des choses que Colson avait pu raconter l'année dernière, il faut se rappeler que les textes bibliques, comme la plupart des textes sacrés en général, c'est des textes historiques avant tout, en premier lieu. En clair, si la Bible condamne les pratiques des habitants de Sodome, c'est parce que les Hébreux étaient en conflit avec les habitants de cette région, qui ne reconnaissaient pas leur Dieu. Et pour les Hébreux, c'est une manière de se démarquer en disant « Regardez, c'est dégueulasse ce qu'ils font, coucher avec des visiteurs, quelle horreur. » Bon, c'est une manière, et ça le... La pensée chrétienne va beaucoup user et abuser de ce schéma-là, de manière de disqualifier les autres. Je renvoie, je l'ai indiqué dans la bibliographie, il n'est pas encore sorti, j'espère qu'il sortira bientôt, au livre de Jacques Fortin, qui fait une discussion plus ample de la manière dont la Bible a... et dont voilà, les textes bibliques sont revisités et réinterprétés au fil des circonstances, sur cette question en particulier de la sexualité. Et de fait, sous le christianisme, accuser les autres d'être sodomites, ça a constitué un des moyens privilégiés pour les disqualifier. Hein. Les cathares en accusaient les chrétiens et réciproquement, les chrétiens en accusent les musulmans, etc. Mais c'est aussi au sein même de la chrétienté que l'Église, en tant qu'institution, a dû se livrer à un sacré travail d'épurement des comportements. Hein. Et notamment, si on regarde l'époque du Moyen-Âge, les chevaliers qui passaient leur temps entre hommes à se glorifier de leur fait d'armes et qui étaient toujours très heureux entre copains, ils n'étaient pas d'une hétérosexualité stricte. Hein, et par exemple, on trouve chez Chrétien de Troyes, dans le roman du Graal, des allusions au fait que les chevaliers qui préfèrent caresser leurs écuyers plutôt que les demoiselles, ils iront en enfer. C'est pas bien. Hein. Et c'est avec l'invention de l'amour courtois, hein, et ce que le sociologue Norbert Elias a appelé la curialisation des guerriers, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'État central, on a des guerriers, il faut quand même les occuper, s'ils passent leur temps à faire la guerre, c'est une menace pour le roi. Hein, donc on va les intégrer à la cour et on va leur donner des occupations, plutôt que de faire la guerre entre eux, ils vont faire des compétitions de courtoisie. Ils vont faire la cour aux dames, etc. Bon. Et c'est comme ça que les chevaliers vont passer de la sociabilité virile qui les caractérisait quelque temps auparavant au vont être un peu convertis au goût des femmes, hein, et au fait de développer des rapports d'affection avec elles. Donc l'hétérosexualité, historiquement, c'est pas quelque chose forcément de premier, en tout cas dans ces couches-là. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la tolérance à l'égard des pratiques homosexuelles, elle est variable selon le contexte économique et culturel. Hein, la Renaissance, c'est une période de prospérité économique, notamment du fait des nouvelles richesses venues d'Amérique. C'est aussi une période de progrès technique et culturel. Et c'est une période où le carcan normatif se relâche. Et du coup, l'homosexualité peut s'afficher au moins dans les couches dominantes. Hein, on pense à Henri III, mais Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, Shakespeare, etc., Alors évidemment, la réforme et puis la contre-réforme vont mettre un frein à tout ça, hein, y compris via des exécutions de sodomites. Hein, mais on voit qu'il y a un jeu avec la norme des marges de jeu. Simplement, faut pas trop se montrer et trop revendiquer ces pratiques. Hein. Et autant, voilà, le marquis de Sade au XVIIIe siècle sera une manière de défier l'Église en revendiquant des pratiques transgressives. On voit aussi, je fais référence parce que le film a été diffusé dans le cadre de l'Université populaire, la religieuse de Diderot dire, bon, ces religieuses qui sont que entre femmes tout le temps et qui s'ennuient à mourir, développent des penchants pas forcément cautionnés par la hiérarchie religieuse. C'est une manière aussi de critiquer cette institution. Donc ça permet de comprendre aussi ce jeu de transgression, de pratiques qui sont clandestines, qui se revendiquent quand il y a moyen un peu de doter ces conduites d'une dimension de critique sociale, hein, mais qui restent globalement clandestines. Et cette situation va durer jusqu'à la Révolution française. Hein, jusqu'à la Révolution, ce sont des pratiques condamnées qui exposent à des sanctions plus ou moins graves, éventuellement le bûcher, ce qui est quand même assez radical, mais ce ne sont pas des pratiques qui engagent la totalité de l'identité de l'individu. Et le fait de s'y livrer occasionnellement ou régulièrement, ça n'induit pas qu'on doive être rangé dans une catégorie à part, ni que ça n'induit pas non plus un mode de vie spécifique. Or, la Révolution, elle est importante précisément parce qu'elle instaure, ce que je disais au début, la coupure du public et du privé. Et la Révolution range clairement les pratiques sexuelles du côté du privé. Et les philosophes, ça a été anticipé évidemment par les philosophes des Lumières, notamment par Montesquieu, qui vont considérer que certes la religion condamne ces pratiques, mais finalement c'est une histoire entre soi et Dieu. Hein ? Et la loi des hommes n'a pas à y mettre son nez dans ce rapport entre l'individu et Dieu. Et la constituante de 1791 va supprimer les incriminations de sodomie au motif précisément qu'elle viole les dispositions de la Constitution qui protègent la vie privée. Une nouvelle fois, c'est une garantie contre l'arbitraire étatique, on voit très bien l'avantage de ça, hein. Mais on n'oubliera pas non plus que cette sphère privée, elle est confiée à la direction du père de famille, qui doit faire régner l'ordre dans le foyer domestique, de la même manière que l'État fait régner l'ordre dans la vie publique. Hein. Donc, voilà, une nouvelle fois, ambivalence de cette coupure entre le public et le privé. Alors le code civil sous Napoléon va reprendre cette décision de la constituante, d'autant que c'est rédigé par M. de Cambacérès, qui, paraît-il, est assez concerné par la question. Et aucune loi répressive en la matière n'existera plus en France jusqu'à la période de Vichy, que j'évoquerai dans un instant. Alors, suite aussi à la conquête napoléonienne, ces idées issues de la Révolution vont être diffusée en Europe et on va abolir la criminalisation de l'homosexualité, tout au moins des pratiques homosexuelles dans une série de pays. Certains États allemands, le Piémont, la Belgique, les Pays-Bas, les cantons francophones de la Confédération helvétique, l'Italie en 1848. Mais dans d'autres pays, ça va être un peu plus tardif. Hein. Faut se rappeler, par exemple, qu'à la fin du XIXe siècle, Oscar Wilde, l'écrivain célèbre, renommé et tout ça, il a vu sa vie brisée par une condamnation pour, je cite en anglais, « gross indecency ». Et puis, dans certaines régions allemandes, il a fallu attendre beaucoup plus. Et par exemple, aussi, quelqu'un de concerné, Louis II de Bavière, tombait sous le coup de la loi de son propre État. Alors, donc, l'homosexualité, au XIXe siècle, elle quitte la sphère du condamnable politiquement, mais c'est pour tomber dans un autre écueil qui est celui de la médecine. On ne va plus condamner les bougres au bûcher, mais on va les observer, on va essayer d'identifier les causes de leur goût particulier, hein, sur le modèle, je caricature, mais où est-ce que ça a dérapé, qu'est-ce qui a été loupé, hein, c'est-à-dire, il y a la norme, l'hétérosexualité, et puis il y a quelque chose qui s'en écarte. Hein. On ne considère pas deux ou plusieurs formes de sexualité qui coexisteraient sur un mode égalitaire. On va même éventuellement tenter de les guérir, par exemple avec des électrochocs, ou des applications de fer rouge sur le clitoris, par exemple, mais aussi via la psychanalyse, hein, même si Freud était assez ouvert, sa compréhension de l'homosexualité n'impliquait pas une vision disqualifiante. Donc les conceptions médicales du tournant du XIXe et du XXe siècle vont envisager l'homosexualité comme une perversion du goût sexuel normal, Et elles le font souvent sur un registre particulier, qui est donc l'idée que le goût pour son sexe suppose le reniement soi-même du sien. En clair, les homosexuels hommes seraient des femmes dans des corps d'hommes, et les lesbiennes seraient des hommes dans des corps de femmes. Alors que le bougre, il est tout à fait viril, l'homosexuel est par définition un être efféminé, hein, pour la médecine du XIXe siècle. Pour la médecine, mais pas que pour elle. Si vous lisez Proust, vous voyez bien aussi cette théorie, entre guillemets, elle se retrouve chez Proust, hein, notamment le monsieur de Charlus, qui est l'archétype de l'homosexuel, il doit se cacher, mais à mesure qu'il vieillit, il se contrôle plus, donc il a des traits de comportement efféminés qui sont comme le surgissement de sa vraie nature qui se révèle. Donc l'homosexualité relève de la sphère privée, et on ne peut pas réprimer les pratiques homosexuelles depuis la Révolution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de condamnation sociale ni une tolérance de la part des autorités politiques. D'autres choses sont interdites, comme l'incitation à la débauche et les lieux de drague homosexuels qui se développent au cours du XIXe siècle, puis qui s'organisent et se commercialisent, sont soumis à de fréquentes rafles. Les homosexuels sont fichés, on s'inquiète aussi de leur influence sur la jeunesse. Et se développe une sous-culture avec des codes de langage, des lieux de sociabilité, des rapports de domination, hein, ce sont des riches qui viennent se payer des petits jeunes, des classes populaires, dans ce que les romans de Genet, par exemple, décrivent d'une certaine manière. Et puis, dans l'entre-deux-guerres, l'homosexualité connaît une phase de relative reconnaissance, mais sur le mode à la fois de la marginalité, hein, pas de la normalisation. On met l'accent sur ce qui sépare du monde des hétéros, et également sur le mode de la légitimation culturelle, hein, avec des figures comme Proust, Genet, Cocteau, Gide, Colette, etc. Hein, avec l'idée d'un développement d'un mode de vie particulier, d'un style de vie, de référence commune, hein, ce qu'on va appeler le camp, c'est-à-dire la reprise du stigmate sur un mode outrancier, hein, avec l'image de la folle efféminée, etc. Alors, la situation, elle va changer avec la Seconde Guerre mondiale et avec Vichy. Et notamment, Vichy va introduire dans le code pénal, en 1942, un délit d'homosexualité. Alors, en plus, on a déjà un fichage antérieur des homosexuels, donc c'est très pratique pour faire des rafles et puis pour les envoyer dans les camps de concentration. Parce qu'il s'agit, hein, l'idéologie de Vichy, c'est la crainte de la dégénérescence de la race, et comme dégénéré, il n'y a pas mieux, hein, dans l'esprit de l'époque. Et puis, on va notamment dans ce délit d'homosexualité viser les relations avec les mineurs de moins de 21 ans. Ce qui ne sera pas le cas pour les relations hétérosexuelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la libération, ce délit va être conservé, et on va le définir comme un acte impudique ou contre nature entre personnes de moins de sexe et de moins de 21 ans. Et ça sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, et d'une amende de 4 000 à 1 million de francs, enfin d'anciens francs, mais quand même, hein, lorsque c'est commis avec un mineur. Alors, des mineurs de même sexe qui ont des rapports consentis entre eux peuvent être poursuivis pour attentat à la pudeur ou pour coups et blessures réciproques. En 1949, le préfet de police de Paris interdit aux hommes de danser entre eux. Et la jurisprudence de l'époque définit le lesbianisme comme, je cite, « une insulte grave au mari ». Une insulte grave au mari. Ça, très. Et en 1960, c'est pas si loin, l'homosexualité est considérée par le Parlement comme un fléau social au même titre que l'alcoolisme, la tuberculose et la prostitution. Donc j'en viens à mon deuxième point. Donc vous voyez qu'il était temps qu'un mouvement homosexuel se constitue. Ce qui va se faire progressivement, hein. Alors j'ai déjà dit des choses l'année dernière, je vais passer vite sur certains points. Alors, à la fin du XIXe siècle, des associations se sont constituées, notamment en Allemagne, pour revendiquer une reconnaissance de l'homosexualité et sa décriminalisation, hein. J'ai dit que selon les pays, ça restait encore criminel dans certains endroits. Ça va se faire notamment autour de la personne du professeur Magnus Hirschfeld, Hirschfeld, hein, qui était un psychiatre qui s'était mobilisé après le suicide d'un de ses patients. Dans le même temps, il adhérait à l'idée que l'homosexualité, c'est quelque chose de congénital et que c'est l'âme d'une femme dans un corps d'homme et réciproquement. Hein, donc, il a quand même fallu du temps pour sortir de cette représentation-là. Des associations à la fois militantes et souvent à dimension culturelle se sont développées dans les années 30, mais bon, la guerre y a mis un sérieux coup d'arrêt. Et pour ce qui est de la France, après la guerre, c'est autour d'une association qui s'appelait Arcadie que s'est reconstitué un mouvement homosexuel. C'est au moins une action collective sur ces questions-là. Alors, Arcadie, c'est une association qui était présidée par quelqu'un qui s'appelait André Baudry, qui était un ancien séminariste et qui souhaitait engager les homosexuels dans la voie d'une émancipation par la banalisation et l'honorabilité. Or, c'est une association qui disposait d'une revue intellectuelle à laquelle contribuaient des écrivains ou des essayistes comme Cocteau, Perfit, Daniel Guérin aussi, le philosophe anarchiste. Ça organisait des débats publics, éventuellement suivis de soirées dansantes, mais pas trop, parce que Arcadie misait beaucoup sur la discrétion et l'honorabilité pour ce qu'elle appelait aussi l'euphémisme, l'homophilie, soit accepté. Et son but, c'était que les homophiles s'acceptent mieux et se fassent mieux accepter par les autres. Et pour ça, il fallait surtout pas se faire remarquer, pas afficher sa différence. Stratégie qui n'a pas toujours été efficace parce que la revue a plusieurs fois été interdite et condamnée. Alors, cette stratégie de l'acceptation par la discrétion va être contestée à la fin des années 70 et va être critiquée comme une soumission un peu servile à l'ordre dominant hétérosexuel. Et donc la fin des années 60 voit le développement d'un mouvement homosexuel qui ne va pas, lui, miser sur la discrétion, mais au contraire sur l'affirmation de soi décomplexé. Et ce renouveau militant, il a une date de naissance très précise aux États-Unis. C'est la nuit du 27 au 28 juin 1969, année érotique encore, pendant laquelle une émeute éclate à New York après une descente de police dans un bar homosexuel, le Stonewall. Et c'est fréquent qu'il y ait des rafles, des descentes de police et des gardes à vue. Mais là, les clients se rebellent et toute la nuit, c'est une émeute dans cette rue de New York. Il y a des pavés qui sont lancés sur les flics. Et à la suite sera créé le Gay Liberation Front, donc le Front de Libération Homosexuelle. Et tous les ans, en juin, pour célébrer l'anniversaire de la révolte de Stonewall, seront organisées des marches de la fierté homosexuelle, donc les Gay Pride, pour célébrer l'anniversaire, et c'est pour ça que ça se passe au mois de juin. Alors en France, mai 68 va donner une impulsion à un mouvement homosexuel comparable, même si l'histoire veut que pendant l'occupation de la Sorbonne, une affiche en faveur d'un comité d'action homosexuelle a été très vite arrachée. Donc on avait vu ça l'an passé, la naissance du mouvement homosexuel en France est indissociable de la naissance du féminisme. Ce sont en grande partie des lesbiennes actives au sein du MLF qui vont faire émerger le mouvement en organisant des réunions spécifiques auxquelles vont se joindre progressivement des hommes. Et ensemble, ils vont fonder en 1971 le Front homosexuel d'action révolutionnaire, le FAR, dont le slogan, je le recite parce qu'il est joli, « Prolétaires de tous les pays, caressez-vous ». Et ils vont se faire connaître par des actions spectaculaires. En premier lieu, la perturbation d'une émission de Méni Grégoire consacrée, je cite, à l'homosexualité, ce douloureux problème, à laquelle participaient un curé, un psychiatre et André Baudry. Et également, c'est partie de l'histoire que j'avais évoquée l'année dernière, le Phare va publier un dossier sur l'homosexualité, je ne sais plus le chiffre, mais X millions de pervers. Non, c'est un autre truc. Peu importe, c'est une autre revue, recherche qui va... dossier sur... C'est les mêmes qui vont publier dans plusieurs revues, mais dans la revue Maoïste Tout, ils vont publier un dossier sur l'homosexualité et le numéro sera saisi par la police. Le directeur de la publication sera acquitté. Il s'appelait Jean-Paul Sartre, donc c'était quand même assez protection. Mais vous voyez des rapports complexe avec l'extrême gauche, à la fois les maoïstes offrent une tribune, mais dans le même temps, il y a quand même un esprit puritain dans l'extrême gauche qui fait que ça se passe pas toujours bien. Alors le phare se réunit à l'école des beaux-arts de Paris, mais comme les hommes viennent aussi pour draguer et pour avoir des activités sexuelles sur place, ça motive une expulsion par la police, ça instaure des tensions avec les lesbiennes qui pour certaines se constituent en groupes autonomes non mixtes, dont les célèbres Gouines Rouges. Aussi, parmi les faits importants à relever, en 71, une tentative de participer à la manifestation du 1er mai. Ils se font refouler par le service d'ordre de la CGT. En 72, ils essayent d'intervenir dans un meeting du PC, mais Jacques Duclos leur répond « Allez vous faire soigner ». Alors, les principales revendications de l'époque sont la fin du harcèlement et du fichage policier, qui malgré tout continue, l'abrogation des lois discriminatoires, hein, qui ont été instaurées par Vichy, mais qui, à la Libération, ont été maintenues, et puis une dépsychiatrisation de l'homosexualité, qui est toujours considérée comme maladie mentale, notamment dans l'ouvrage qui est la Bible des psychiatres. Alors, j'ai plus retrouvé le sens de l'acronyme, ça s'appelle le DSM, hein, c'est l'encyclopédie des maladies mentales, qui est le bouquin de référence des psychiatres, qui a connu plusieurs éditions, et l'homosexualité sortira du DSM en 1975. C'est aussi un enjeu de reconnaissance sociale et culturelle, hein, que les homos ne soient pas obligés de se cacher ou de se nier. Et donc le combat, il ne passe pas que par la loi, puisqu'il vise les mentalités de manière générale, mais le fait que la loi consacre la répression, ou au contraire protège contre l'homophobie, ça a quand même un point important pour faire évoluer les mentalités. Et c'est pour ça notamment que les Gays pour la Liberté, qui est un mouvement qui va prendre la suite du phare dans les années 70, va à la fois mener une action culturelle avec des universités d'été des homosexualités, mais aussi des listes homosexuelles aux élections dans les années 70, et puis des soutiens contre les agressions, notamment avec le comité d'urgence anti-répression homosexuelle. Et de la dynamique des comités gays, groupes de libération homosexuelle, GLH, va naître en 79, pardon, le journal Guépier. Alors, ces revendications formelles, elles vont être satisfaites avec la victoire de la gauche en 81, puisque en 82, Badinter va supprimer les discriminations en regard des rapports sexuels avec mineurs. C'est-à-dire que alors l'abaissement de la majorité à 18 ans n'avait pas changé la discrimination, c'est-à-dire que des relations, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles, sont traitées de la même manière pour ce qui est des relations avec des mineurs. La répression et le harcèlement policier s'atténuent considérablement, hein, aussi parce que les situations qui permettaient ou qui légitimaient la répression s'effacent, hein. Le développement considérable des commerces et des lieux de sociabilité homosexuelle font qu'il est un peu moins besoin de hanter les pissotières et les jardins publics pour que les homosexuels se rencontrent. Alors, je vous signale au passage que la chanson de Charles Trenet, Le Jardin Extraordinaire, a un autre sens que celui que vous croyez. Alors, ça, c'est aussi un des éléments les plus marquants de la période qui s'ouvre avec les années 80. C'est le développement considérable de la sphère commerciale, qui n'est plus clandestine. Hein, des bars, des restaurants, des discothèques vont s'afficher clairement comme homosexuels. Dans le même temps que des personnalités très populaires vont affirmer leur homosexualité sur un mode qui n'est pas celui de l'esthétisation des périodes précédentes, hein, avec l'aristocratisme cultivé de Gide, de Proust, etc. Bon, Village People, si vous vous rappelez, dans les années 80, qui est un truc ouvertement gay, c'est pas le même style esthétique. Et puis, l'autre événement marquant des années 80, c'est l'apparition du sida. Alors, le sida, ça a donné lieu à une importante mobilisation des homosexuels, et cela d'autant plus que les pouvoirs publics ont été très lents à se saisir de la question de la prévention et de l'accompagnement des malades. Hein. La loi a supprimé les discriminations, ça ne veut pas dire que ceux qui font la loi considèrent que ces questions relatives à l'homosexualité sont dignes du même intérêt que les autres. Donc il apparaît très vite que la maladie, tout au moins dans les pays occidentaux, frappe en priorité, en grande proportion des homosexuels masculins, aussi les usagers de drogue par voie intraveineuse. Et cette mobilisation, elle prend des formes un peu paradoxales, notamment dans le cas de l'association qui est vite devenue dominante dans le secteur, AIDE, qui a été fondée en 1984 par Daniel Defer, qui était le compagnon de Michel Foucault, qui lui-même est mort du sida en 1984. Alors le paradoxe, c'est que cette association, elle est issue du monde homosexuel, que la plupart de ses premiers animateurs étaient gays, mais elle a tenté au maximum de se distancier de cette image homosexuelle. L'enjeu, il n'était pas anodin, il était extrêmement important devant le risque de stigmatisation. Il était important de souligner que tout le monde, pas seulement les homos, était potentiellement concerné et que le sida, ce n'était pas la maladie des homosexuels. Et que les homosexuels n'étaient pas coupables de la maladie, que ce n'était pas la sanction de leur comportement déviant, comme le disaient certains. Et que c'était important d'en faire une question générale. Alors, à noter par ailleurs sur le sida, c'est intéressant que l'épidémiologie a fait évoluer ces catégories. On a cessé de parler des homosexuels masculins comme catégorie de personnes potentiellement exposées à l'épidémie, et on a privilégié une périphrase, mais qui est plus intéressante, plus conforme à la réalité, d'hommes ayant des pratiques sexuelles avec des hommes. Et on voit bien, retrouve là la critique des catégories identitaires pour s'intéresser cette fois, une nouvelle fois, aux pratiques. Car y a des gens qui ont des rapports homosexuels sans se considérer comme eux-mêmes homosexuels. Et il s'agissait aussi pour la prévention de toucher ces gens-là. Et puis, dans un second temps, il est apparu à d'autres groupes que la généralisation du sida et la mise à distance de la question homosexuelle ne pouvaient plus être tenues parce que ça aboutissait à nier une dimension fondamentale de l'épidémie. Le fait que ce soit des homosexuels qui soient touchés en grand nombre, ça a à voir aussi avec la place qui est réservée à l'homosexualité dans notre société. Et plus la stigmatisation est pesante, plus cette identité est niée, plus les personnes sont fragilisées devant l'épidémie. D'où l'apparition d'associations comme ACT UP, qui, à la différence de AIDS, va se définir clairement comme issue de la communauté homosexuelle, qui va revendiquer une fierté homosexuelle. Et de fait, ACT UP va contribuer à une remobilisation du mouvement homosexuel, qui en tant que tel était rentré en relatif sommeil depuis les années 80, et de même, le sida va jouer un rôle déterminant dans le renouveau de la question homosexuelle et dans sa politisation à partir des années 90. Alors, troisième point, troisième temps de mon exposé. Donc, le sida, il va jouer les enjeux de reconnaissance. Le sida, il va jouer un rôle déterminant en posant la question du statut des couples de même sexe. Jusqu'à présent, les couples eux-mêmes ne se posaient pas forcément de questions, et puis ils étaient considérés comme du concubinage, donc pas de souci. Mais, et puis ils n'avaient pas forcément envie de se marier. La question, elle s'est posée très concrètement dans le cas d'un couple où il y en a un qui meurt du sida, et l'autre, il apparaît tout d'un coup qu'il n'a strictement aucun droit, et que par exemple, il partageait un logement, c'est celui qui est mort qui était propriétaire, et son compagnon se retrouve immédiatement à la rue. Et éventuellement, c'est la famille qui éventuellement avait pu renier celui qui était décédé parce qu'il était homosexuel, qui arrive le jour de l'enterrement en disant on récupère l'héritage. Problème de protection sociale, problème de bail, tout un tas d'enjeux qui se trouvent posés très concrètement, très brutalement. Et le secteur associatif a commencé à exprimer des revendications concrètes de reconnaissance et dont certains se sont saisis au sein du champ politique. Alors, je vais passer rapidement sur les différents projets de contrat qui ont été élaborés au fil des années. Je vais me centrer sur celui qui finalement a été mis en place, le PACS, le Pacte civil de solidarité, qui a été voté en 1999. Après des débats houleux qui valent qu'on s'y arrête, qu'on les rappelle. Donc, pour rappel, c'est une proposition de loi qui a instauré le PACS et pas un projet de loi. Alors, la différence, c'est qu'une proposition de loi, ça vient des députés, alors qu'un projet de loi, ça vient du gouvernement. Donc, ce sont des députés, Jean-Pierre Michel et Patrick Bloch, respectivement du MDC et du PS, qui ont déposé cette proposition. Et ça indique bien la timidité des gouvernants, même de gauche, sur la question. Alors, cette timidité, même de gauche, elle s'est trouvée confirmée lors d'un premier vote à l'Assemblée nationale, où comme par, il y a des coïncidences, tous les députés, ou presque socialistes, ne pouvaient pas être là. Panne de réveil, plein de trucs malheureux. Ce qui fait que la loi s'est retrouvée majoritaire dans l'hémicycle et qu'ils ont fait repousser la loi qui a dû être donc revotée, etc. Ça a obligé à relancer la procédure. Alors, le PACS, il est, quelques rappels, il est accessible quel que soit le sexe des contractants, ce qui, de fait, l'ouvre aux couples de même sexe, mais ce n'est pas un dispositif spécifique pour eux. les contractants bénéficient d'une imposition fiscale commune, on peut devenir l'ayant droit de son partenaire auprès de la Sécu, on peut rester dans le logement commun en cas de décès du partenaire, les membres du couple se doivent une aide matérielle et une assistance réciproque et sont solidaires des dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Donc c'est un dispositif simple, notamment pour ce qui est de la rupture, puisqu'il suffit d'une déclaration conjointe ou unilatérale pour rompre impasse. De fait, c'est un dispositif proche des garanties juridiques du mariage, mais sans le côté cérémoniel. Alors, l'opposition au PACS qui s'est manifestée au moment du vote de la loi, elle est intéressante à plusieurs titres. D'une part, elle a révélé une hostilité à l'égard des homosexuels qui s'était faite discrète, mais qui s'est exprimée, là pour le coup, très clairement et très vivement, dès qu'elle en a eu l'occasion. Pour rappel, des milliers de manifestants ont défilé contre le PACS fin 98 et début 99, en recrutant au sein de l'extrême droite religieuse, d'accord, mais aussi au sein de la droite classique comme l'UDF et du RPR. Je me rappelais que les slogans « les PD au bûcher » ont été scandés pendant ces manifestations. Ensuite, on a eu de la part des parlementaires de droite tout un discours qui renvoyait l'homosexualité à la perversion, en l'assimilant soit à la pédophilie, soit à la zoophilie. Une campagne aussi, alors ça c'était avant la discussion parlementaire, avait présenté le dispositif comme un mariage homosexuel, et il y avait une pétition, alors c'est l'Opus Dei qui avait organisé ça, une pétition auprès des maires, et beaucoup de maires ont signé, pour refuser que le PACS soit ratifié à la mairie. Ce qui fait que, de fait, c'est au tribunal qu'on contracte. Et on se rappelle aussi, comment l'oublier, Christine Boutin brandissant la Bible dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pour appuyer son opposition au PACS. Alors ça, c'est des expressions d'une homophobie qui a cru pouvoir s'exprimer de manière, l'expression est à la mode, décomplexée, de la part de la droite. Ça l'a plutôt desservi, la droite, en la ringardisant. Et de fait, une fois revenue au pouvoir, sous Chirac, enfin en 2002, la droite n'a pas touché au PACS, et même il semble qu'elle souhaite le renforcer. Alors, ça permet, première remarque, de constater que l'homophobie, ce n'est pas simplement dans les banlieues. Parce qu'on a beaucoup de trucs, les jeunes de banlieue, surtout s'ils sont immigrés, qu'est-ce qu'ils sont homophobes, ils sont sexistes. On s'aperçoit que dans la bourgeoisie catholique, c'est pas mal non plus, c'est assez répandu. Alors, dans le cas aussi du PACS, c'est je dirais cette homophobie-là, elle est relativement prévisible. Il y a une autre forme d'opposition au PACS qui est aussi très intéressante parce qu'elle s'est appuyée sur la science pour s'exprimer. Et elle s'est plus précisément appuyée sur les sciences humaines et sur des sciences comme l'anthropologie et la psychanalyse. Alors, c'est un discours selon lequel reconnaître un cadre juridique aux couples de même sexe, c'est accomplir une monstruosité. Parce que ce serait nier la différence des sexes. Et cette différence, elle est entendue comme un principe fondateur de notre condition humaine. Attention, c'est sérieux. Alors, c'est un discours qui a notamment été développé par une anthropologue, Françoise Héritier, qui a succédé à Lévi-Strauss au Collège de France. C'est quelqu'un de très intéressant. Ordinairement, et considère que la différence entre hommes et femmes et le fait qu'on attribue une valeur différente à chacune de ces identités, donc le genre, ce que j'avais présenté dans la première séance comme le genre, c'est quelque chose d'universel qu'on retrouve dans toutes les sociétés. Par conséquent, l'identification d'une différence entre les sexes et leur hiérarchisation, ce serait un critère de l'humanité. Ça serait ce qui nous différencierait des animaux, pour le dire un peu brutalement. C'est un des creusets fondateurs de notre humanité. Et on avait vu dans la première séance, je vais citer Bourdieu, j'avais cité John Scott, effectivement, la différence des sexes, c'est un des principes les plus décisifs de lecture du monde. Vous rappelez le schéma de Bourdieu de la maison kabyle, tout peut être abattu sur le masculin-féminin. Alors, jusque-là, on peut suivre Françoise Héritier, mais là où c'est problématique, c'est quand elle dit que la reconnaissance des couples de même sexe, ça serait la négation de la différence des sexes, donc ça serait la négation de toute différence. Hein, puisque la différence des sexes, ça serait la matrice de toute pensée de la différence. Et la pensée de la différence, c'est aussi, par extension, la reconnaissance d'autrui comme distinct de soi. Donc ça serait un truc psychologique grave, de ne pas reconnaître la différence, de ne pas reconnaître l'altérité, de ne pas faire la différence entre sa propre main et la main de quelqu'un d'autre. Or, bon, objection qu'on peut faire, c'est que des différences dans notre société, effectivement, la différence masculin-féminin, elle est fondatrice, structurante, mais des différences, il y en a de toutes sortes. Hein, et c'est pas parce que des personnes sont de même sexe qu'elles sont pour autant interchangeables. Alors, cette idée, donc Françoise Héritier a joué un rôle important là-dedans. Elle s'est exprimée parmi des sociologues, comme Irène Théry. Elle s'est exprimée chez des psychanalystes comme Pierre Legendre, qui est aussi un juriste, c'est pas anodin, qui, eux aussi, ont affirmé que reconnaître les unions homosexuelles, ça serait la remise en cause des fondements de l'ordre social, et notamment de ce qu'ils ont appelé l'ordre symbolique. Alors là aussi, c'est très sérieux. C'est une notion inspirée de la psychanalyse lacanienne, qui est fondée sur l'idée de loi, c'est-à-dire que les humains, et en ce sens, ils se différencient des animaux, ils se dotent de lois, de règles. Hein, ils ne font pas n'importe quoi, la différence des animaux, et notamment chez les humains, et ça, ça a été avancé par Claude Lévi-Strauss, ce qui différencie les humains des animaux, c'est qu'il y a la prohibition de l'inceste. Or, la différence des sexes et la prohibition de l'inceste, ça serait les sources de toute loi, qui serait, bon, dans la psychanalyse, incarnée par le père. Donc vous voyez, s'il y a deux mamans, ça devient merdique. Donc la différence des sexes et la prohibition de l'inceste, et surtout la différence des sexes en l'occurrence, ça serait la source de toute loi, et par conséquent, nier la différence des sexes, ce serait ouvrir à un monde sans loi, déréglé, et donc à une forme de régression qui relève de la folie. Hein. Et les psychanalystes de dire qu'un enfant élevé dans un couple homosexuel a toutes les chances de devenir psychotique. Et si c'est pas lui, ça sera ses enfants à lui, s'il en a. Alors, on voit tout de suite l'argument et la crainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même il y a 10 ans, c'est impossible de dire que l'homosexualité, c'est une maladie mentale, c'est une perversion. Par contre, on pouvait encore dire il y a 10 ans que ça peut conduire à la folie non pas des homosexuels eux-mêmes, qu'on aime bien, qui ont toute leur place dans la société, etc., mais les enfants qu'ils seraient susceptibles d'avoir et d'élever. Parce que s'ils se retrouvent sans différence des sexes à la maison, ils vont devenir psychotiques. Alors, pourquoi cette focalisation sur les enfants? Aussi parce que ce qui était craint par les tenants de l'ordre symbolique, comme par la droite, c'est aussi des gens de gauche qui tiennent ce discours. Hein. Irène Théry, c'était un spécialiste du PS pour les questions familiales. Ce qui était craint, c'est qu'une fois obtenu la reconnaissance légale de leur couple, les homosexuels vont revendiquer le droit à l'adoption. C'était pas infondé comme crainte. Alors, ce qui est amusant aujourd'hui, c'est de relire ces polémiques, parce que 10 ans après, il ne semble pas, à ma connaissance, que l'ordre social s'est effondré. On n'est pas tombé dans l'animalité après le Pax. Et les études sur les enfants de couples homosexuels ont toutes démontré qu'ils n'étaient pas plus psychotiques que ceux qui étaient élevés dans les familles hétéros. Les mêmes processus de construction psychologique sont bien là. Il y a de l'Oedipe, etc. Hein, on peut rassurer les psychanalystes. Parce que, c'est justement, les deux parents, ils sont peut-être de même sexe, mais ils ne sont pas interchangeables. Et en plus, les enfants de couples homosexuels, en général, ils ont été désirés, ce qui est quand même mieux. Hein. Les parents se sont donné du mal pour les avoir, et donc, plutôt que certains couples hétérosexuels qui ont des enfants sans le vouloir, bref. Donc, voilà, donc ils veulent des enfants, certains. Alors, ils en ont, et en plus, ils en ont. Et ils en ont notamment par l'adoption. Alors, comment ils font? Jusqu'à présent, un ou une célibataire peut adopter à partir du moment où il a l'agrément, c'est-à-dire qu'il présente des garanties qu'il pourra élever l'enfant dans de bonnes conditions. Et lorsqu'on demande un agrément, on n'est pas forcé de dire qu'on est homosexuel. Et donc un gay ou une lesbienne peut tout à fait adopter, mais à condition d'être discret ou discrète, c'est-à-dire aussi de se renier en tant que tel. Et c'est un individu, éventuellement homosexuel, qui adopte dans ces cas-là, et qui a l'autorité parentale. C'est pas un couple. Et donc, par conséquent, il y a eu de nombreuses contestations auprès des tribunaux pour que l'autre partenaire soit reconnu comme parent et partage l'autorité parentale. Alors, avec des succès variables de la jurisprudence, hein, qui n'est pas totalement fixée, mais qui va plutôt dans un sens favorable aux revendications homosexuelles. Alors, l'enjeu, là aussi, il n'est pas mince. Hein. En cas de décès ou en cas de séparation, légalement, l'autre membre du couple n'est rien, alors qu'il a, ou elle, a élevé l'enfant aussi. Et il est considéré comme un parent par l'enfant. La même chose vaut pour l'insémination artificielle. Les lesbiennes n'y ont pas droit en France, c'est réservé aux couples dont l'homme est stérile, mais elles peuvent aller à l'étranger, notamment en Belgique. Mais là aussi, c'est l'enfant de l'une, pas l'enfant du couple, aux yeux de la loi. Alors, j'en reviens au PACS. Hein, je déborde un peu, mais j'ai bientôt fini. La majorité des PACS, c'est amusant, sont signés aujourd'hui par des couples hétérosexuels. Et s'ils sont deux fois moins nombreux que les mariages, leur nombre progresse beaucoup plus vite. Et en fait, on constate que les deux formules se rapprochent. On a le même taux de rupture, autour de 18%. On a les mêmes mises en scène, avec des banquets, des célébrations l'été plutôt. Du coup, la revendication d'un égal accès au mariage apparaît comme un des derniers enjeux de lutte antidiscriminatoire, puisqu'on ne voit pas ce qui s'opposerait désormais à ce que les homosexuels puissent se marier. C'est d'ailleurs le cas dans plusieurs pays. Alors la question avait été posée, vous vous en rappelez peut-être, par un mariage qui avait été célébré il y a quelques années par le maire de Bègles entre deux hommes et qui avait été annulé au prétexte que le mariage c'est l'union d'un homme et d'une femme. Mais on peut contester cette conception du mariage comme nécessairement entre personnes de sexe différent. Pourquoi il faudrait que le mariage soit obligatoirement entre un homme et une femme? La réponse immédiate, c'est le mariage fonde la famille qui se prolonge par des enfants. Et seules les unions hétérosexuelles sont à même de procréer. Certes. Sauf que ça revient à une conception limitée. Parce que, est-ce qu'il faut interdire le mariage aux hétérosexuels qui ne veulent pas d'enfants? Bon. Et puis, plus sérieusement, enfin, c'est un argument sérieux, c'est considérer la filiation, le fait d'avoir des enfants, hein, la filiation, comme quelque chose de biologique. Or, dans la loi française, la filiation n'est pas quelque chose de biologique. On considère qu'il y a d'autres moyens que les rapports sexuels conjugaux pour avoir des enfants, et notamment l'adoption. La loi française considère que les enfants adoptés ont absolument les mêmes droits que les enfants biologiques. Donc la filiation n'est pas quelque chose de biologique, puisqu'on peut avoir des enfants par d'autres moyens que la reproduction, la grossesse, l'accouchement, etc. Donc la filiation n'est pas quelque chose de biologique, c'est quelque chose de social et de juridiquement garanti, ratifié. Cet enfant est le mien, non pas parce que je l'ai fait, mais parce que je le reconnais comme tel. Hein? Et aussi, il est reconnu comme le mien par la société et par ses lois. Et cet enfant est reconnu comme le mien si je l'ai fait, mais aussi bien si je ne l'ai pas fait, si je l'ai eu par adoption. Donc on ne voit pas pourquoi les homosexuels, qui ne peuvent pas procréer par eux-mêmes, ne pourraient pas adopter. Et la même chose pour l'insémination artificielle. Des couples hétérosexuels stériles y ont recours, leurs enfants sont bien reconnus comme les leurs. Pourquoi un couple de lesbiennes dont une a été fécondée artificiellement ne pourrait pas bénéficier du même cadre légal? Donc on voit qu'il n'y a pas d'argument sérieux qui s'oppose à l'accès des couples de même sexe à la conjugalité et à la filiation. Alors aucun argument sérieux, sauf un doute. Là encore, je renvoie au livre de Jacques Fortin, parce qu'il l'a exprimé de manière assez claire. Est-ce que les homosexuels ont vraiment à gagner à se conformer au modèle hétérosexuel? Alors, certes, il y a des enjeux importants, hein, de confirmer une reconnaissance et une acceptation sociale après des siècles d'ostracisme, de bûchers, d'électrochocs et de choses comme ça. Hein. Ça peut avoir un aspect quand même important de pouvoir accéder à des droits pleins, de ne plus être des citoyens de seconde zone. Mais il y a le péril d'une normalisation et d'un conformisme. Reproduire la famille hétérosexuelle, c'est aussi reproduire une institution centrale du patriarcat, au sein de laquelle peuvent se reproduire, pas nécessairement, mais ça peut arriver, des rapports de domination. Et Jacques Fortin cite, moi j'aime beaucoup ça, Madame H, qui est un comédien qui fait des spectacles assez décapants. Hein. Donc Madame H, c'est la présidente de l'association Homosexualité et Bourgeoisie. et qui dit deux papas ou deux mamans, c'est deux papas et deux mamans de trop. Une famille homosexuelle, c'est comme une famille hétérosexuelle, un nid à névrose. Et donc, pour en revenir, l'idée un peu centrale, c'est que le potentiel de subversion qui était celui du mouvement homosexuel au début des années 70, notamment lorsqu'il était associé au mouvement féministe, eh ben, il s'est considérablement assagi et c'est peut-être dommage. Et pour terminer, la note de la Fondation Copernic que j'ai mise dans la bibliographie, j'y avais un peu contribué, certains membres du groupe avaient proposé de supprimer l'obligation de fidélité dans le mariage. Parce que c'est un reliquat religieux qui est fondé sur la conception biologique de la filiation. L'obligation de fidélité, c'est pour éviter les bâtards. Hein, c'est une garantie contre ça. À partir du moment où on considère que la filiation, et le droit français le fait, que la filiation, c'est quelque chose de social et pas de biologique, il y a un plus besoin. Certains avaient proposé ça, moi je trouvais ça assez rigolo. D'autres membres du groupe s'y sont opposés justement parce que ça leur semblait trop provocateur. Hein, ils ont préféré revendiquer l'accès des homosexuels au mariage civil. Et je pense que c'était significatif de cette tension entre subversion et conformisme qui travaille à l'heure actuelle la question homosexuelle. Je m'arrête là, je suis désolé, j'ai été beaucoup trop bavard, mais j'espère que vous aurez le temps de poser les questions, toutes les questions que vous voulez poser. Ou les commentaires que vous voulez faire. Merci.